Jacques, j'appelle d'un village près de Rocamadour. J'ai entendu sur France Inter le président, le sénateur LR, dire que c'est l'intelligence humaine qui va résoudre la crise environnementale qui s'amplifie. N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a provoqué l'exploitation débridée des énergies fossiles? N'est-ce pas l'intelligence humaine qui, par l'agriculture intensive, a détruit la biodiversité dans nos campagnes et aussi provoqué la pollution aux algues vertes? N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a décidé la déforestation au Brésil et en Indonésie? N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a fait Tchernobyl et Fukushima? N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a inventé la surpêche et le plastique qui pollue nos océans, etc., etc. Monsieur Retailleau, peut-on vraiment compter sur l'intelligence humaine?
Allô, Mathieu Vidard, Jean-Michel dans la Loire. Pourquoi pour les futures COP, donc comme la COP 27 qui sera la prochaine, ne choisit-on pas une ville où il y a un accès facile, où les moyens de communication sont bons, il n'y a pas de bug comme il y a eu à Glasgow, même si c'est toujours la même ville, je prends par exemple Lyon qui est au centre presque de l'Europe, ça pourrait être une idée parce que finalement ça coûte cher et ça pose des désagréments aux personnes qui veulent prendre le train ou qui encombrent un aéroport, peut-être trop petit parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de déplacement. Voilà, merci.
Bonjour, je m'appelle Jacques et j'habite Fontaine-la-Soret dans l'Eure. Que fait-on quand on écoute M. Macron? Il veut reconstruire des centrales nucléaires. Pourquoi on ne travaille pas plus sur l'éolien, le solaire? Et comme dans d'autres pays, nous avons plein de cours d'eau en France. Pourquoi on ne travaille pas sur les marées motrices, puisqu'il y aura toujours du courant?
Elisabeth de Strasbourg, j'écoute votre émission aujourd'hui, comme je le fais assez souvent, et je suis sidérée, ou plutôt désabysée. À quoi sert la COP 26? Bien sûr qu'on nous fait la leçon pour tout, sans pour autant remédier au problème. Ma conclusion, dire tout et son contraire. Voilà, merci.
Deuxièmement, je parle aussi de la chasse des accidents. Comment se fait-il qu'on ait des fusils et des carabines qui tirent entre 1 km et 2,5 km le gros gibier? Là, il y a un monsieur qui a été tué par un chasseur à 500 mètres. Alors qu'a priori, moi je suis pas chasseur, mais dans le code de la chasse, quand on tire un gros gibier, on doit viser au sol avec un angle de 30 à 40 degrés. Merci, bon courage et continuez vos émissions.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Le 1er janvier prochain entrera en vigueur, le fonds réparation prévu par la loi anti-gaspillage de 2020. Et concrètement, pour les consommatrices et les consommateurs que nous sommes, cette enveloppe financière nous permettra de diminuer le coût de la réparation de certains produits du quotidien. Sauf que avant même d'être lancé, ce fonds a vu son budget diminuer de moitié et les organisations ont dénoncé un rétro-pédalage en appelant en octobre à une mobilisation sur une plateforme de consultation. La réparation des objets avec l'allongement de leur durée de vie représente pourtant un véritable bénéfice écologique à l'heure de la lutte pour la durabilité et contre l'obsolescence programmée. Et c'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré pour comprendre l'impact de nos modes de consommation sur l'environnement et bien sûr les alternatives qui permettent de limiter nos impacts. Pour en parler, Laetitia Vasseur et David Cormand, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Laetitia Vasseur, vous êtes la cofondatrice et déléguée générale de l'association Hop Halte à l'obsolescence programmée, votre association qui a été agréé comme Association Nationale de Protection de l'Environnement. Et David Cormand, vous êtes eurodéputé pour Europe Écologie Les Verts, membre de la Commission du Marché Intérieur et de la Protection des Consommateurs et rapporteur pour le Parlement Européen du rapport d'initiative pour un marché intérieur durable. On va tout expliquer dans un instant. On va se retrouver avec les questions et les témoignages des auditrices et des auditeurs pour parler donc obsolescence programmée et réparabilité, les messages sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux, l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec les méga bassines, ce sont ces réservoirs d'eau géants pour irriguer le maïs, en particulier en Poitou-Charentes. Il y a beaucoup de contestations sur place.
Et puis en fin d'émission, on vous offrira 2 minutes 30 de pure nature avec notre partenaire France Télévisions. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal de Montagny avec Henri Bérec à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. sur France Inter.
L'obsolescence dite programmée, un concept loin d'être nouveau. Le terme voit le jour aux États-Unis en 1932 en pleine crise économique. Le promoteur immobilier Bernard London imagine une obsolescence légalement imposée afin de stimuler l'industrie et la croissance. L'obsolescence programmée est donc la démarche d'un fabricant de produits électroménagers, informatiques ou électroniques, limitant volontairement la durée de vie de son produit ou en rendant la réparation impossible dans le but d'en favoriser la fréquence de remplacement. Même s'il est difficile de prouver l'obsolescence programmée en tant que stratégie industrielle, la France fait figure d'exception dans le monde. Depuis 2015, elle en a fait un délit puni par la loi.
Alors justement, où sommes-nous en France et en Europe sur le front de l'obsolescence programmée? On va voir si c'est le bon terme d'ailleurs qu'il faut employer pendant cette émission. Dossier donc de la Terre au carré avec vous, Laetitia Vasseur de l'association HOP et vous, David Cormand, eurodéputé. Obsolescence programmée, vous défendez toujours ce terme, Laetitia Vasseur?
Oui, je pense que c'est un terme qui fédère. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un délit qui vient d'être simplifié d'ailleurs, donc on est content. Mais de manière plus large, on peut aussi parler d'obsolescence prématurée pour sortir du cadre juridique du délit et parler de tous ces produits qui ne sont pas suffisamment conçus dès le départ pour être assez durables et réparables.
Ouais. La nuance, elle est d'importance pour vous, David Cormand?
Non, mais Laetitia a raison de pointer les choses comme ça. Moi, dans le rapport sur lequel j'ai travaillé au Parlement européen, j'ai préféré parler d'obsolescence prématurée parce qu'il y a une question de charge de la preuve.
Ouais.
Sur l'obsolescence programmée, c'est au client qui doit dire « Ah ben vous avez programmé, vous en tant que fabricant, l'objet pour qu'il n'ait pas la durée. » L'obsolescence prématurée, c'est l'inverse. C'est de dire « Attendez, vous me vendez une télé qui est censée durer X années, elle n'a pas duré la durée de X années, je ne parle pas de la garantie, hein. Je parle de la durée de vie attendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Prouvez-moi qu'elle était quand même fabriquée dans les règles de l'art. » Donc c'est pour ça que cette pratique-là englobe plus de cas, mais les deux termes ont leur intérêt.
Mais c'est vrai qu'on l'entend maintenant, hein, ce terme d'obsolescence prématurée. Laetitia Vasseur, donc votre association, entre autres, dénonçait en octobre le rétro-pédalage du gouvernement consacré justement à la dotation du fonds de réparation qui devait financer 20% justement des réparations sur certains objets. Et là, on est passé à 10%. On en est où là? Parce qu'il y a eu cette plateforme qui était ouverte justement pour appeler un petit peu aux réactions. Qu'est-ce qu'il en est là aujourd'hui?
Oui, nous, à l'association HOP, on a beaucoup milité pour ce fonds réparation parce que c'est un frein important, le coût de la réparation pour les consommateurs. Et en effet, on est un peu déçus puisque le gouvernement a acté que ça pourrait favoriser la réparation à hauteur de 10% seulement du coût de la réparation. Et pour nous, c'est insuffisant. Donc après, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr. Et maintenant, on va tout faire pour que ça fonctionne et que la réparation soit plus simple dans notre pays. Mais en effet, on aurait souhaité que ce soit une enveloppe plus ambitieuse.
Pour quels objets, alors, concrètement? Parce que je crois que les jouets ne font plus partie, justement, des remboursements prévus.
Oui, alors, la baisse de la dotation, c'est surtout pour les produits électriques et électroniques. Donc, par exemple, un smartphone, une télévision, un ordinateur. Par contre, sur tous les produits de bricolage, de sport, là, on pourrait arriver jusqu'à 20%. Donc, on a plus gagné sur ce terrain-là.
Mais qu'est-ce qui fait que ça, l'enveloppe a visiblement diminué alors qu'on se souvient d'annonces à l'époque un peu fanfaronnantes, je ne sais pas comment le dire, sur ces possibilités de réparation?
Oui, il y a un peu une incohérence entre le discours, l'ambition et puis la réalisation. Et c'est pour ça qu'on, nous, on travaille tous les jours pour que la réalisation soit à la hauteur des ambitions et de l'affichage politique. Voilà, c'est un arbitrage entre la volonté des fabricants, la volonté des distributeurs et puis la volonté des associations et un arbitrage politique.
Ouais. David Cormand, c'est un mauvais signal quand même, envoyer ça aux consommateurs, qu'on essaye d'inciter, d'encourager à avoir des pratiques plus durable.
C'est le problème de l'injonction paradoxale, parfois à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que sur le principe, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mieux si les objets durent plus longtemps. C'est plus logique de les réparer. Surtout que, en termes d'emploi, c'est pas neutre. C'est-à-dire que quand vous réparez un objet, c'est des emplois qui sont non délocalisables. Vous ne les faites pas réparer à l'autre bout du monde. Donc c'est des emplois près de chez nous, qui sont des emplois en plus valorisants, enfin qui sont intéressants. Sauf que ça heurte des intérêts. Ça heurte l'intérêt de ceux qui vendent et qui ont un modèle économique qui pourrait être différent, mais qui aujourd'hui est un modèle économique qui s'appuie sur la vente du neuf, pas de pièces détachées, pas de réparation, mais la vente du neuf. Donc c'est comme ça que le modèle fonctionne. Et puis il y a un enjeu pour le gouvernement, bon, politique, et aussi budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si on veut élargir le taux de remboursement et le nombre d'objets qu'on rembourserait favoriser cette filière, c'est un peu plus d'argent. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment de l'argent qui serait bien, bien utilisé. Laetitia doit mieux connaître que moi les sommes en jeu, mais on parle de différentiels de quelques dizaines, peut-être 100 millions, 150 millions d'euros. Quand on pense aux sommes auxquelles on a été habitués, sur le quoi qu'il en coûte, etc., c'est très peu d'argent par rapport au nombre d'emplois que ça créerait et aux gains écologiques que ça représente.
Mais Laetitia, à 10%, est-ce que ça va vraiment exciter les consommateurs à, justement, à faire cette démarche de réparation ?
Nous, le risque qu'on voit à ce qu'il y ait moins d'argent que ce qu'on aurait aimé, c'est soit, finalement, on va avoir peut-être 3 euros de moins sur la facture pour réparer un smartphone. Donc, est-ce que vous allez aller... est-ce que ça va vous inciter pour 3 euros ? Peut-être pas. Ça va pas non plus inciter les réparateurs, parce que les réparateurs, c'est vraiment les acteurs clés de ça. Il faut qu'il y ait des réparateurs qui aient envie de participer à ce système qui peut être un peu lourd administrativement pour eux. Si c'est pour avoir le même nombre de clients, ne pas attirer davantage de clients parce que finalement ils leur proposent une réduction sur la facture de seulement 3 euros, pareil, ils vont peut-être pas être incités à participer. Et puis également, il faut pas non plus qu'on réduise drastiquement le nombre de réparateurs ou le nombre de produits qui peuvent être faire l'objet de bénéficier justement de cette réduction de coût de la facture. Sinon, on va perdre l'objectif. Donc, avec moins d'argent, on fait moins, c'est sûr.
Sachant que dans les chiffres côté consommateur, je crois qu'il y a un décalage, je ne sais pas si vous les avez, entre les consommateurs qui disent « Ah bah oui, moi je veux bien aller réparer », mais qui le font effectivement. Vous avez des chiffres ?
Oui, il y a à peu près 77% des gens qui aimeraient réparer quand il y a un produit qui tombe en panne. Et puis finalement, on observe que seulement 44% des produits en général sont effectivement réparés.
Moins d'un sur deux.
Voilà. Voilà, donc bien sûr, il y a une incohérence entre la volonté et la réalité. Et ça, c'est dû notamment au coût, bien sûr, puisque c'est à notre charge, en général, au-delà de la garantie de 2 ans légale de conformité, de prendre en charge ce coût pour réparer. Donc il y a ce frein économique, et naturellement, surtout vis-à-vis de produits neufs qui sont parfois pas très onéreux. Et puis après, il y a d'autres problèmes auxquels aussi il faut s'attaquer. Ce n'est pas seulement la question du coût, l'accès aux pièces détachées, les délais pour réparer... La conception des produits, est-ce qu'ils sont vraiment réparables ? Et c'est à tout ça qu'on s'attaque à l'association Hop aussi.
David Cormont, au niveau de l'Europe, là aussi, c'est un nouveau combat, justement, l'accès aux pièces détachées, par exemple.
Oui, mais moi, c'est vraiment, quand je suis devenu député européen, là, en 2019, c'était vraiment un sujet sur lequel je m'intéressais l'obsolescence programmée. D'abord, parce que j'avais vu le travail que faisait Laetitia Vasseuré et Hop. J'avais vu aussi le travail, parce qu'on n'invente jamais rien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry Libert, qui est au Conseil économique et social européen, qui avait été un des premiers à porter ce sujet-là au niveau européen, et Pascal Durand, qui est aujourd'hui plus chez Les Verts, mais qui avait fait un très gros travail là-dessus au dernier mandat. Et moi, je m'intéressais de me mettre un peu dans la suite de ça, et j'ai eu du bol parce qu'il y a eu un rapport d'initiative dans le jargon européen. C'est pas un rapport qu'à force de loi, mais qui permet de donner quand même des positions, précisément sur ce qu'on appelle le marché intérieur durable. Et donc, j'ai réussi à me retrouver rapporteur de ce dossier-là, et avec les autres groupes, d'autres familles politiques, pas tous, mais suffisamment, on a réussi justement à parler d'obsolescence prématurée dont on parlait tout à l'heure, et par exemple de cette idée d'affichage obligatoire de la réparabilité des objets. C'est ce que disait Laetitia Vasseur à l'instant, c'est que pour les consommatrices et les consommateurs, ils ne se plantent pas quand ils achètent un objet sur le fait de comment il va être réparé facilement.
C'est le fameux indice de réparabilité, oui, dont on parle depuis le début de l'année.
C'est ça. Et donc au niveau européen, ce n'était pas voté, et on a gagné de 3 voix en plénière, ça arrive rarement, donc j'étais très content. Et ça, c'est, l'Union européenne, elle va maintenant faire une directive sur tous ces sujets-là. Donc j'espère qu'il y aura un peu, vous savez, comme vous avez l'indice carbone, la A, B, C, D, ou les Nutri-Score pour l'alimentation, qu'on ait un indice qui soit le même pour tout le monde et qu'il soit obligatoirement affiché.
Mais je vous parlais des pièces détachées, ça c'est vraiment un vrai problème. Quand on a justement cette volonté de faire réparer quelque chose, c'est bien souvent les réparateurs n'ont même pas les pièces qui correspondent.
Oui, c'est vraiment essentiel d'avoir l'accès aux pièces détachées pour les réparateurs, qu'ils soient agréés ou non. Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est que les fabricants réservent leurs pièces détachées à leurs réparateurs agréés. Donc il faut avoir la caution du constructeur pour pouvoir réparer ou pas. Donc il peut avoir un petit conflit d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut démocratiser cet accès.
Mais ça, c'est un des critères dans l'indice de réparabilité, je crois, l'accès justement aux pièces détachées et leur prix également, je crois, Laetitia Vasseur.
Oui, tout à fait. Dans l'indice de réparabilité, qui concerne 5 catégories de produits produits aujourd'hui.
En France,
En France, tout à fait. Il y a 5 critères, notamment l'accès aux pièces détachées, les délais, les prix, l'accès aux notices aussi, aux informations pour pouvoir bien réparer.
Allez, on y revient dans un instant. C'est le dossier de la Terre au Carré avec, bien sûr, pour vous, questions et messages des auditeurs.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
Prénom, puisqu'il s'appelle Jacques, avec la vie de tous les jours sur France Inter, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au Carré sur France Inter.
Obsolescence programmée, un terme que les consommateurs connaissent bien désormais. On en parle avec Laetitia Vasseur de l'association HOP et l'eurodéputé David Corman. Avec vos messages qui arrivent déjà nombreux, donc Camille, on peut déjà en prendre un.
Oui, Pierre nous écrit qu'il a des collègues qui lui soutiennent que c'est un mythe, l'obsolescence programmée. Il nous raconte qu'il était à court de sources à part sa radio. C'est pas parce qu'ils en parlent que ça existe. Les constructeurs n'ont pas intérêt pour leur réputation, disent ses collègues. Donc Pierre nous demande, Laetitia Vasseur, David Corman, si on peut lui donner clairement des sources incontestables et facilement répétables que l'obsolescence programmée existe vraiment, David Corman.
C'est quand même des choses qui sont documentées. Moi, je n'ai pas en tête les décisions de justice, Laetitia Vasseur, elle pourra vous les donner, mais quand on a travaillé là-dessus au niveau du Parlement européen, on a fait des auditions, parce que c'est l'usage, avec des spécialistes de ces questions-là, des chercheurs, des universitaires, et c'est quand même des choses qui sont assez établies. Encore une fois, l'obsolescence programmée, mais on peut le constater d'ailleurs soi-même sur, alors c'est un sujet un peu sur les mises à jour. C'est-à-dire en fait les mises à jour sur les objets connectés. Vous avez des mises à jour qui permettent que votre objet fonctionne toujours. Vous avez des mises à jour aussi qu'on pourrait faire, comment dire, de rendre votre objet plus lent et d'avoir plutôt envie d'en changer, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont plutôt documentés.
Eh bien, on va écouter justement l'exemple d'Apple, précisément sur cet exemple des mises à jour, et puis on continuera bien sûr à répondre à cet auditeur. Apple avait, qui a reçu plusieurs amendes justement à ce sujet.
Apple, une entreprise de séduction massive, mais depuis quelque temps la popularité du géant américain vacille. En cause, un problème que vous avez peut-être déjà rencontré si vous avez un iPhone. Régulièrement, Apple vous propose de faire une mise à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qui parfois le ralentirait et vous pousserait à racheter un appareil neuf. Un scandale qui a en fait éclaté en décembre 2017 grâce à la curiosité d'un chef d'entreprise canadien. John Poole a mis au point une application qui calcule la vitesse à laquelle tourne un smartphone. Il découvre alors que beaucoup ont effectivement ralenti.
C'est 30 à 35% des utilisateurs de mon logiciel qui ont été affectés par ce problème. J'étais choqué. C'est vraiment très inhabituel. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière.
La marque conteste les accusations d'obsolescence programmée, mais elle avoue avoir volontairement bridé certains modèles pour prévenir les arrêts inattendus des téléphones.
Et ça, c'était en 2019, parce que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. C'était extrait du journal de 20h de France 2, Laetitia Vasseur, puisque vous avez même réussi, voix haute, à faire condamner Apple, c'est ça ?
Oui, nous avons déposé une plainte suite à ces éléments. Et suite à cette plainte, en effet, Apple a été condamné à 25 millions d'euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse par omission.
Ouais. L'Italie aussi a été condamnée, les États-Unis.
Tout à fait. Du coup, ça a fait vraiment un effet domino, puisque Apple vend dans le monde entier. Donc, dans le monde entier, ces pratiques que nous, on considère être de l'obsolescence prématurée.
Par omission, vous dites ?
Oui, c'est parce que Apple donc savait que les mises à jour allaient ralentir, faire dysfonctionner votre smartphone, mais a oublié de vous le dire.
Donc, ouais. ça répond à notre auditeur qui posait cette question, Pierre, là tout à l'heure, sur la façon dont on peut avoir des preuves précisément, parce que beaucoup avaient remarqué ce type d'inconvénient sur les téléphones. On parlait d'un mythe et ça a été réellement prouvé. Sauf que là, il faut être un geek et monter sa propre application. C'est très compliqué finalement d'avoir des infos là-dessus. Alors comment on fait ?
C'est compliqué de prouver l'obsolescence programmée. C'est bien pour ça qu'on a créé l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Puisque si une personne individuelle a un problème avec son smartphone, elle ne va pas forcément aller devant le juge pour faire condamner l'obsolescence programmée. Mais si chacun témoigne de ses problèmes à l'association HOP, par exemple, nous, on peut avoir les moyens d'investiguer et du coup de porter une plainte pour faire cesser ce sentiment d'impunité.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes, peut-être en interne ou des fuites qui sont sorties sur, au moment de la fabrication, de la conception d'un objet, c'est carrément programmé, justement, pour reprendre le terme dont on parle, que ça doit durer maximum 3 ans, 4 ans ou 5 ans, un ordinateur, par exemple.
Oui, alors il y a deux choses. Par exemple, sur l'affaire Epson, qui est en cours en ce moment à la en justice, on a pu démontrer que une cartouche faisait... sur une cartouche, il y a une puce qui compte le nombre de pages et qui fait qu'à un moment, on vous dit qu'il n'y a plus d'encre, alors qu'en finalement, on a constaté qu'il pouvait rester jusqu'à 40% d'encre.
La puce, elle est très visible. Quand on sort la cartouche, on la voit tout de suite.
Tout à fait. Et donc, c'est ce genre de pratique qu'on a réussi à démontrer et qui est toujours en cours d'investigation pour le procureur de la République. Après, toute l'obsolescence n'est pas forcément programmée dans ce sens-là. Parfois, c'est simplement que les fabricants vont se dire, pour une course au bas prix, on va mettre des composants de moins bonne qualité et on va faire en sorte que ça dure au moins 2 ans parce qu'on est tenu par la garantie légale de conformité et après, advienne que pourra, sachant très bien que ça ne va pas durer et peut-être que ça nous arrange aussi parce qu'on va comme ça renouveler les ventes.
Et là, le procès est en cours contre Epson précisément, c'est ça ?
Oui, depuis maintenant 3 ans, donc on attend avec impatience la décision de justice.
Parce que là, c'est facile de le prouver, la démonstration est très simple, il suffit de regarder à l'intérieur de sa cartouche et voir effectivement que il reste de l'encre, et beaucoup, je crois que c'est 25%. Donc ça, c'est une vraie chose qu'on peut faire condamner.
Oui, alors après, tout est une question d'équilibre. Parce que Epson va vous dire, c'est normal qu'il reste un petit peu d'encre, ça évite que ça sèche, je ne sais quoi. Mais est-ce qu'il faut qu'il reste jusqu'à 40% de cette encre, sachant qu'elle coûte plus de 2 500 € le litre ? Donc nous, on dit que c'est une question d'équilibre, et là, c'est disproportionné, donc on peut appeler ça de l'obsolescence programmée.
Une question d'Olivier sur franceinter.fr. Donner une aide de 10 ou 20% ne ferait qu'augmenter, nous dit-il, le prix de la réparation d'autant. Le mieux serait sûrement une aide directe sur la réduction des charges du réparateur. David Cormand, comment faire aujourd'hui pour que les réparations vaillent le coup finalement ? Parce que ça peut arriver assez souvent que des gens disent « bah en fait ça me coûte quasiment aussi cher de reprendre un neuf ».
Ça a été évalué ça, on a fait une étude au niveau, il y a une étude au niveau européen qui a été faite et le seuil de prix c'est 30%. C'est-à-dire qu'en fait si le coût de la réparation de votre objet c'est supérieur à 30% que le prix de l'objet neuf, les gens se découragent de le faire. Ouais. Donc l'objectif, si on veut que les gens réparent, c'est de trouver le moyen que la réparation, quoi qu'il arrive, soit inférieure à 30% de l'objet neuf. Et donc si pour arriver en dessous de ce seuil de 30%, une sorte de seuil psychologique, il faut une aide de 10 à 20% de réparation, c'est bien de le faire. Et pourquoi il n'y aura pas cet effet d'aubaine? Parce que ça arrive, les effets d'aubaine, votre Olivier a raison de le pointer, notamment sur tout ce qui est parfois changement, vous savez, chauffage à bois, etc. Il y a pu avoir des effets d'aubaine où les installateurs augmentaient d'autant. Voilà le prix. Là, ça ne sera pas le cas parce qu'en fait, le réparateur a un intérêt objectif à avoir une clientèle qui augmente et d'être en dessous donc, de ces 30% du prix de l'objet neuf.
Laetitia Vasseur, pour compléter là-dessus.
Oui, alors sur le fonds réparation aussi, il ne faut pas se tromper, les consommateurs ne vont pas recevoir de l'argent sur leur compte bancaire.
Bien sûr.
Ça va être une réduction sur la facture. Mais ce qu'il faut, je suis complètement d'accord avec Olivier aussi, c'est qu'il faut que la réparation soit rentable. Et pour qu'elle soit rentable, il faut que ça soit plus rapide. Aujourd'hui, si vous mettez 3 heures à démonter un produit, forcément, ça ne va pas être rentable ni pour le réparateur ni pour le consommateur. Donc c'est même la conception même qu'il faut revoir. Et c'est vraiment sur ça qu'on se bat à l'association HOP.
Et ça, c'est un gros boulot hein, quand même, hein, puisqu'effectivement...
Oui, mais on avance.
Ouais, c'est tout le circuit qu'il faut revoir et ça demande énormément d'énergie. On se retrouve dans un instant, il y a beaucoup de questions et de messages pour vous. Envoyez-nous également vos notes vocales, vous savez que vous pouvez le faire depuis la rentrée sur l'application France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h30, on passe bien sûr au vert avec vous, Camille Cronier.
Avec un sujet dont je vous avais parlé à la rentrée et qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis, les méga bassines. Alors pour ceux du fond de la classe qui n'écoutaient pas la Terre au carré le 1er septembre dernier, une méga bassine ou cratère d'eau, c'est une sorte de piscine géante, hein, ça peut aller pour la taille jusqu'à 10 hectares, donc plus de 10 terrains de foot. Un trou creusé dans la terre est tapissé d'une bâche en plastique qu'on remplit ensuite avec de l'eau pompée dans la nappe phréatique, gigantesque réservoir d'eau à l'arrivée pour irriguer les cultures. Et donc, le sujet prend de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus d'actions et de manifestations contre ces méga-bassines. Voilà, la dernière, c'était samedi, 3000 personnes à Mauzé-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres.
De s'en sortir, c'est de suspendre immédiatement les travaux, sans quoi nous nous retrouverons très bientôt. Ouais.
Suspendre les travaux parce que 93 projets sont en cours en Poitou-Charentes, le berceau des bassines en France où il y en existe déjà une cinquantaine et il y en aurait d'autres dans les tiroirs, plus un millier sur tout le territoire français, défendu par le ministre de l'Agriculture lui-même, Julien de Normandie.
Il s'agit de se dire, en plein hiver, quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas, somme toute, assez récurrent aujourd'hui, et donc ne peut-on pas, dans notre pays, avoir des consensus en se disant, bah, par exemple, dans ce cas de figure, les pluies diluviennes en plein hiver, avec un sol gorgé d'eau, ces pluies-là, on peut les récupérer, les mettre dans une bassine pour en fait assurer notre production alimentaire et donc notre alimentation.
Sauf que les opposants insistent, hein, ce n'est pas de l'eau de pluie qui est stockée. Joëlle Lallemand, présidente de l'API, Association Locale de Protection de l'Eau.
C'est pas vrai du tout, c'est bien l'eau qui est pompée dans la nappe phréatique et donc les nappes, eh ben, elles se vident petit à petit.
Conséquence avec Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne.
Ces pompages mettent en difficulté les différentes zones humides et les différents milieux aquatiques.
Sachant qu'en plus, hein, l'eau, une fois dans la bassine, s'évapore, donc gâchis, et peut être contaminée avec des cyanobactéries qui se retrouvent ensuite dans les sols, puisque je le rappelle, hein, donc, ces méga-bassines, officiellement appelées réserves de substitution, servent à irriguer. Et on arrive au problème principal soulevé pendant la manif samedi.
Tout le monde sait que les bassines, ça sert juste à prolonger quelques années de plus un modèle qui de toute manière va se casser la gueule et qui sert juste à ramener du pognon.
Le modèle de l'agriculture intensive, parce que ce qu'arrose majoritairement cette eau aujourd'hui, c'est le maïs.
Maïs qui est destiné soit à l'export, soit à l'alimentation des troupeaux de ruminants qui se trouvent majoritairement dans ce cas-là être à l'intérieur, qui ne pâturent plus, ou alors pire, on va nourrir des méthaniseurs pour produire du gaz.
Alors le syndicat majoritaire, la FNSEA, parle d'idéologie et de méthode terroriste. Je cite un communiqué, parce que la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon a été brûlée, vidée et le système de pompage démonté samedi. Bassine, je le précise, illégale d'après la justice, comme 4 autres, mais qui bénéficie de dérogations de la préfecture. Et l'eurodéputé vert, par ailleurs paysan Benoît Biteau, ne comprend pas.
Ces projets ne sont pas en adéquation avec les termes réglementaires posés par la loi sur l'eau, posés par le code de l'environnement, posés par la directive cadre européenne. Donc je ne sais pas pas comment l'État peut continuer à distribuer des autorisations d'aménager des bassines, distribuer des autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation alors qu'on met en péril l'eau potable, qui est quand même la première priorité, on met en péril le bon état des milieux aquatiques. Je ne sais pas comment l'État peut continuer de tenir comme ça. C'est juste hallucinant.
Avec jusqu'à 400 millions d'euros d'argent public et au bénéfice de moins de 10% d'agriculteurs d'après les opposants, sans parler des entreprises privées comme Vinci qui sont derrière ces bassines.
On privatise une eau qui est un bien commun.
Alors là, c'est Annie, grand-mère, membre du collectif Bassine Non Merci, qui ne croit pas à un quelconque bénéfice pour la ressource en eau et la souveraineté alimentaire, comme l'avance pourtant la FNSEA.
Non, mais c'est pire que ça, c'est que cette eau, elle va maintenir une agriculture intensive dont on ne veut plus, puisque de toute façon, plus d'eau, c'est exactement comme donner le pot de Nutella à des enfants qui sont gourmands. Là, on va leur donner la gestion de l'eau, alors qu'ils sont incapables de restreindre leur consommation d'eau.
Confirmation de Nicolas Giraud à la Confédération Paysanne.
Plutôt que de chercher à faire évoluer le modèle, nos pratiques culturelles sur les fermes, etc., eh ben, on va investir à grands coups d'argent public dans du stockage de l'eau démesuré et on va continuer avec les mêmes recettes qui vont faire les mêmes dégâts, disparition du monde paysan, mise à mal de la biodiversité, etc.
Alors le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, a fait une étude d'impact que j'ai obtenue et dans laquelle il est écrit, je cite, que la marge de manœuvre est clairement faible et montré que les prélèvements, même l'hiver, ont un impact sur la disponibilité de la ressource parce que, en plus, les bassins sont interconnectés. Pour les opposants, aucun de ces projets de bassines ne semble donc raccord aussi avec l'urgence climatique. Benoît Biteau.
On peut pas mettre une pièce dans la machine pour les 30 prochaines années, parce que c'est à peu près pour les 30 prochaines années qu'on investit quand on réalise des bassines, sans intégrer les projections, les simulations, les modélisations que nous proposent les scientifiques sur l'évolution du climat.
Ils demandent une pause, un moratoire, le temps d'étudier la conformité de chaque projet.
L'abandon des bassines, l'eau et la terre ne font qu'un. L'abandon des bassines.
Ça chantait quand même samedi, visiblement, à l'occasion donc de cette manifestation. Et c'était Camille Passauvert que vous réécoutez, bien sûr, sur la page de la Terre au Carré.
David Cormand, ce dossier des méga-bassines, alors il commence, je le disais, à prendre de l'ampleur, mais il est très connu dans l'ancienne région Poitou-Charentes, beaucoup moins ailleurs en France, mais c'est un sujet important pour tout le monde.
Il est connu, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, évidemment. Et attention, parce que c'est un modèle qui est en train de s'étendre.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le modèle des Deux-Sèvres, enfin, de Poitou-Charentes, c'est un modèle qui est en train de dans la région centre.
Plus d'un millier en projet partout en France.
Et il y a eu des passifs. Alors, c'était pas des méga-passines, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment la guerre de l'eau à laquelle on est en train d'assister. Parce qu'avec le changement climatique, la ressource en eau est en train de se raréfier. Et donc, il y a des conflits d'usage, appelons-le comme ça, entre l'eau qu'on a besoin pour boire, l'eau pour l'agriculture, l'eau indispensable à la biodiversité et à des circuits qui sont nécessaires pour le vivant. C'est dans les Deux-Sèvres, on n'est pas loin du marais Poitevin. Et donc cette eau, y compris de l'hiver, elle sert aussi ce surplus d'eau, ce qui est c'est fou, qui est défini comme un surplus d'eau par les défenseurs de ces bassines, elle sert à maintenir des écosystèmes qui, par ailleurs, emprisonnent beaucoup de carbone. Et donc il y a d'autres projets, mais qui n'étaient pas des méga-bassines, mais comme le lac de Caussade, qui a été fait contre une décision de justice. Ils l'ont fait quand même. Il y a eu le drame de Sivens. Donc en fait, on voit que c'est en train de se tendre. Et là, on parle d'obsolescence programmée. Et là, c'est l'obsolescence programmée d'un modèle agricole qui est en train de nous mettre dans le mur. Et donc il faut vraiment réussir à changer de modèle. Et moi, je suis effrayé de voir ce gouvernement continuer à défendre. Mais c'était très bien décrit, je ne vais pas répéter dans votre reportage. Il faut arrêter avec ce modèle-là, y compris pour les agricultrices et les agriculteurs. Parce que c'est eux qui vont être en première ligne dans cette fin, dans cette obsolescence du modèle.
Et ce n'est pas juste l'eau de pluie qu'on récupère, comme le disait
Julien Normandie. C'est l'eau des nappes phréatiques.
Et quand bien même, hein, vous savez, l'eau de pluie, elle sert à quelque chose. C'est-à-dire que, c'est ça que je dis, que c'est, quand bien même ça serait, ce n'est pas le cas, mais que ça serait de l'eau de pluie, elle sert à irriguer des cours d'eau, elle sert à maintenir des écosystèmes en eau. Et donc, c'est pas on ne capte pas de cette façon-là impunément de l'eau, là.
Ouais, il y a un vrai dossier entier à y consacrer, d'ailleurs, dans cette émission. On en reparlera certainement. Et puis, dans un instant, on poursuit notre discussion autour de l'obsolescence programmée.
For the hour, keep the meter running. Take every street if you wanna.
Bad Religion, c'était Cat Power sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Quand on achète une machine, on sait qu'elle sera fichue dans 5-6 ans.
Je ne trouvais pas de réparateur, donc c'était pas évident. J'ai préféré la changer directement.
Les lave-linges ont une durée de vie de plus en plus courte. Ils sont utilisés pendant 8 ans contre 10 ans en 2010. Aujourd'hui, 84% de ces appareils sont remplacés en raison d'une panne ou d'un dysfonctionnement. Selon ce réparateur d'électroménager, nos machines à laver sont de moins bonne qualité et les pièces détachées parfois introuvables.
Vous avez des roulements à billes qui avant étaient interchangeables et aujourd'hui, ils ne sont plus référencés. Il faut changer l'ensemble de la cuve. Le prix de la cuve plus la main-d'œuvre équivaut à peu près à la moitié du prix de la machine. Le client ne fait pas réparer.
Pour mieux vous guider, un indice de réparabilité devrait être affiché sur ces appareils dès le 1er janvier 2021. Une mesure qui pourrait permettre de faire vivre plus longtemps votre électroménager.
Voilà, c'était un sujet de 2019 du JT de TF1 sur les machines à laver. Et nos invités pour parler de l'obsolescence programmée, Laetitia Vasseur de l'association HOP et l'eurodéputé David Cormand. Laetitia Vasseur, l'exemple des sèches-linges, des lave-linges, lave-vaisselle, c'est assez intéressant parce que je crois qu'il y a un calcul qui a été fait par l'ADEME sur l'allongement de la durée de vie de ces appareils et on peut, avec une seule année, gagner énormément, par exemple, en matière de gaz à effet de serre.
Oui, tout à fait. La conception même des produits et toute cette obsolescence a un impact environnemental très important. Il faut savoir que c'est vraiment au moment de la fabrication qu'on pollue le plus. Et après, bien sûr, il y a les déchets. 23 kilos en moyenne par Français et par an de déchets électriques et électroniques. Donc c'est énorme et ça va de manière croissante. Et sur le CO2, bien sûr qu'en allongeant la durée de vie des produits, on peut vraiment avoir une action climatique positive. Il faut savoir, par exemple, que si on allongeait la durée de vie de tous nos produits électriques, multimédia, ouais, lave-vaisselle,
d'un an seulement, je crois que le calcul était fait.
Alors là, j'ai regardé pour 3 ans. Arrivait à augmenter la durée de vie de ces produits de 3 ans, de tous les Français, tous les foyers français, on pourrait éviter 15 millions d'équivalents de tonnes de CO2.
C'est ça.
C'est énorme.
Oui, absolument. Camille, les questions sont nombreuses.
Oui, alors on a Anne et Marie, par exemple, qui nous écrivent qu'elles voudraient bien faire, Anne, par exemple, à Paris, je voudrais bien faire réparer un petit électroménager, un moteur grillé, mais je ne sais pas où m'adresser. C'est un gros frein sur Paris. Et Marie, du côté d'Aix-en-Provence, nous dit la même chose. Je suis dans la région d'Aix-en-Provence. J'ai pas trouvé de réparateur pour une mini chaîne stéréo, donc je me trouve dans l'obligation d'en acheter une autre sans savoir si elle est réparable. Est-ce qu'on peut m'indiquer des réseaux de réparateurs? Est-ce que ça se trouve, ça, des sites internet peut-être fiables, Laetitia Vasseur, pour trouver des réparateurs?
Oui, alors pour réparer, il y a plein de solutions, donc c'est quand même la bonne nouvelle. Pour tout ce qui est petit électroménager ou petits appareils, on peut aller voir des repair cafés. Regardez sur internet, les repair cafés, ce sont des associations près de chez soi où il y a des réparateurs bénévoles qui réparent gratuitement. Donc ça, c'est déjà...
Il y en a partout sur le territoire,
il
y a un bon maillage.
Oui, quasiment partout en France, il y en a vraiment beaucoup, ou des cafés de la réparation. Donc ça, c'est des associations bénévoles. Après, on peut essayer de réparer soi-même. Donc on peut essayer de diagnostiquer sa panne, par exemple, sur
des
sites...
C'est plus risqué, mais bon... Ouais.
Mais c'est faisable, il y a beaucoup de gens... Enfin, il y a des petites choses, parfois, une toute petite pièce, facile à... Déjà, parfois, c'est pas forcément dû à une panne de pièce, il y a juste un problème d'entretien. Donc, sur le diagnostic, on peut s'aider des sites comme Spareka et acheter peut-être la petite pièce et réparer facilement soi-même. Et après, sinon, il y a les annuaires, par exemple, réparateurs de l'ADEME et des chambres de métiers d'artisanat pour trouver un réparateur près de chez soi.
Il y a produitsdurable.fr aussi, qui est intéressant pour avoir des conseils avant d'acheter.
Oui, c'est l'association HOP qui a créé ce site produitsdurable.fr pour guider les consommateurs dans leur vie quotidienne. Donc sur la plupart des produits, vous pouvez trouver des conseils pour savoir comment acheter un produit qui va vraiment durer et comment le réparer, même si vous avez peu de temps ou peu d'argent.
Un autre message, je vous lis. Je suis Gérard, réparateur IFI et photo depuis 94. Mon atelier déborde de travail depuis cette date. Je suis d'accord pour les pièces détachées. Par exemple, ça va vous intéresser, David Cormand. Canon et Nikon ne livrent aucune pièce détachée. Il faut se débrouiller. Il nous met un petit PS. J'ai dépassé l'âge de la retraite et je ne trouve pas de repreneur. Alors, première question, on va revenir quand même sur le problème des pièces détachées. Encore plus peut-être en ce moment avec la crise sanitaire. Et deuxième question, sur la formation. Est-ce que des choses sont mises en place au niveau politique, que ce soit en France ou même en Europe pour pousser à la formation de jeunes futurs réparateurs.
Alors sur les pièces, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait le modèle économique des entreprises dont on parle, mais les autres, c'est pas de vendre des pièces détachées. Leur modèle économique, c'est de vendre des objets complets. Et ça, c'est aussi quelque chose pour l'électroménager notamment, qui est une demande des distributeurs. Ça, faut comprendre, c'est pas forcément les constructeurs qui veulent mal faire, c'est aussi les distributeurs qui leur imposent des standards tellement, c'est comme dans l'agriculture, je vais vous dire, c'est comme l'alimentation, tellement durs en termes de coûts, qu'ils sont forcés de fabriquer à moindre coût, et c'est pas un plaisir de constructeur. Quand vous construisez une machine à laver, vous n'êtes pas un vicelard qui veut construire une machine à laver qui marche mal. C'est qu'il faut la vendre, et donc c'est les distributeurs, surtout en France, qui ont la main sur si vous vendez ou pas, qui vous référencent ou qui ne vous référencent pas. Ça, c'est le premier point, donc ça, il faudra le changer. Deuxième point sur les réparateurs, moi j'ai appris ça, mais grâce à Hop, quand on a fait le séminaire là, à Murphy, qui est une entreprise de réparation électroménager, qui nous disait qu'en fait, ils forment eux-mêmes les réparateurs, parce qu'il n'y a plus de formation de réparateurs. C'est des filières de formation professionnelle qui, visiblement, ont été complètement abandonnées. Et il nous disait, un peu la série des chiffres, le chiffre d'affaires de l'électroménager chaque année en France, c'est 8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la réparation, c'est 90 millions.
Ouais.
Donc c'est 1%. Deuxième chiffre, il y a 25 millions de pannes d'objets électroménagers en France par an. Il n'y en a que 5 millions qui sont réparés, dont la moitié, c'est des sous-garanties. Donc c'est une part infime. Et dernier chiffre, il y a 5000 personnes aujourd'hui qui sont réparateurs. Les besoins aujourd'hui, ça serait 23 000.
Ben justement,
on avait un réservoir d'emplois disponible.
Ça peut être vraiment, voilà, ça peut être un métier d'avenir ou pas, Laetitia Vasseur?
Oui, parce qu'on parle souvent du modèle économique. Si finalement tous les produits duraient longtemps, est-ce qu'on aurait toujours de l'emploi, de la fabrication de produits, de la vente, etc. Mais oui, on peut avoir des modèles économiques qui sont compatibles avec des produits durables, réparables, et ça peut créer beaucoup d'emplois, en effet.
David Cormand, est-ce que vous arrivez à responsabiliser les entreprises aussi au niveau européen? Alors, est-ce qu'il y a un vrai travail qui est fait là-dessus? Il y a un dialogue vraiment qui est fait? Est-ce qu'il y a de l'écho? On est face à des murs permanents.
C'est pas des murs, mais c'est dur. Vous voyez, je vous disais l'exemple des constructeurs. Eux, ils sont pas. Mais ils disent, mais moi, j'ai un modèle économique, il faut que je les vende, mes trucs. Donc, si vous mettez des contraintes en termes, on parlait d'éco-design, tout à l'heure, d'éco-conception, sur une machine à laver, typiquement, ça serait possible, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, de standardiser les pièces. Vous savez, c'était le débat qu'on a eu sur les chargeurs de téléphone.
Absolument, oui.
C'est-à-dire, il y en avait 12, on est descendu à 3, il faut qu'il n'y en ait plus qu'un. Ça peut être pareil pour toutes les pièces. Surtout les pièces qui tombent en panne, c'est-à-dire, quelle que soit l'entreprise, on standardise le type de pièce pour ne pas avoir un fichier infini de pièces et que ce soit toujours la même procédure pour les remplacer. Et ça, personne n'y perdrait. Il y aurait toujours des machines ou quoi. Et les constructeurs, ils auraient un modèle économique et sur la vente de l'objet neuf et sur la vente des pièces de rechange.
Ça n'aurait pas une incidence, pardon, sur la performance de la machine à laver, par exemple?
Alors ça, c'est l'argument qu'on nous oppose. Et c'est drôle parce que quand j'en parle avec des députés européens qui viennent des anciens pays de l'Est, ils me disent, mais vous voulez revenir à l'époque de l'Union soviétique?
On roulait tous dans la même voiture.
Oui, avec les Lada, machin. Non, franchement, il y a de la marge. Je pense que justement, au contraire, l'innovation écologique aujourd'hui, c'est d'avoir des objets qui sont performants. Laetitia Vasseur avait raison de rappeler que l'essentiel du coût environnemental, écologique, de tout le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire de sa conception, sa construction, son usage, son déchet, c'est au moment où on le fabrique. C'est autour de 80%. C'est énorme. Donc quand vous économisez la fabrication d'un nouvel objet, vous économisez 80% de l'ensemble de son coût environnemental de toute sa vie.
Mais Laetitia Vasseur, justement, l'obsolescence programmée, ça concerne beaucoup plus les objets ou les produits de mauvaise qualité, en tout cas d'accès très facile, ou est-ce que, au contraire, les produits de luxe très très chers sont moins concernés par l'obsolescence?
Alors, c'est une question assez difficile à répondre, mais ce qu'on sait, c'est qu'un produit qui est peu cher, bas de gamme, va très certainement ne pas durer. Par contre, un produit cher, on n'est pas sûr qu'il dure non plus.
Donc, ce n'est pas un gage de qualité durabilité.
Non, c'est bien pour ça qu'il faut, et on s'est battu et on a obtenu à l'association HOP l'indice de durabilité, et ça sera effectif dès 2022. Et comme ça, sur tous les produits de manière obligatoire, ceux qui seront concernés, on aura cet indice de durabilité qui nous dira, sur une note sur 10, s'il est vraiment durable, fiable, robuste et réparable, ou pas. Et ça, ça va être, on pourra comparer les produits et on aura vraiment, on espère, une information fiable.
On entendait 2021 dans le sujet tout à l'heure, mais c'est 2022 hein, pour avoir cet indice sur les produits, c'est ça ?
En fait, l'indice de durabilité va venir remplacer l'indice de réparabilité dès 2024.
Réparabilité, ça a commencé depuis janvier progressivement, c'est ça ?
Voilà, aujourd'hui, on a une information sur certains produits sur la réparabilité et bientôt, elle sera complétée, elle sera améliorée.
D'accord.
Ben, on parlera de durabilité.
Question peut-être un peu naïve, mais comment ça se fait que des produits, une machine à laver, si je reste toujours sur la machine à laver, beaucoup plus ancienne, qui a peut-être 30 ans ou 40 ans, semble mieux fonctionner qu'une qu'on va acheter aujourd'hui.
Bah, c'est ce qu'on disait avec David. En effet, c'est le fait que les produits, en termes de composants, parfois, il y a vraiment une course au bas prix dans un rapport de force aussi avec des distributeurs.
Non, mais
parfois,
ils étaient plus robustes, par exemple, ceux qu'on achetait dans les années 60, 70, qui fonctionnent toujours pour certains aujourd'hui. Il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient mieux conçus à l'époque ?
Oui, d'une certaine manière, pas forcément sur tous les volets, ils étaient peut-être moins performants sur d'autres volets, mais c'est vrai que on avait parfois des cuves en métal, on avait moins d'électronique. Là aujourd'hui, sur les lave-linges en particulier, l'une des premières raisons de panne non réparable, c'est les cartes électroniques, parce que pour changer une carte électronique, donc c'est du logiciel finalement, ça vous coûte plus de 250 € parfois de changer cette carte. Donc évidemment, ça rend la chose complexe.
Et ça relativise justement le progrès et la modernité, quand même, d'une certaine manière, David Cormand.
Oui, mais ça, c'est toujours le débat sur c'est quoi la modernité ? Est-ce que c'est
d'augmenter les
services technologiques, mais qui ont des impacts, y compris en termes d'extractivisme, hein, tout ce qu'on parle, les microprocesseurs, les cartes mères, tous ces trucs-là, c'est des objets qui demandent l'utilisation de terres rares, donc l'extraction de minerais avec des conséquences environnementales. Est-ce que c'est ça la modernité ? La modernité, c'est d'avoir une machine à laver qui, à mon avis, fonctionne. Après, il faut se méfier avec l'effet d'optique, parce que par définition, la machine à laver de 30 ans qu'on continue à voir, bah, c'est celle qui marche toujours. Il y en a peut-être beaucoup qu'on ne voit plus, mais c'est vrai que l'augmentation de la complexité.
On a tous une grand-mère avec une machine à laver qui marche encore, monsieur.
Paul nous écrit, modeste témoignage, j'ai remplacé moi-même à faible coût les amortisseurs de ma machine à laver alors que le réparateur de la marque me disait que la machine était hors service.
Bravo.
Aucune compétence de ma part, hormis savoir utiliser un tournevis. Comment est-ce qu'on peut lutter, David Cormand, contre un réparateur, ça arrive, hein, qui va venir, qui va regarder un petit peu, quand ils viennent déjà, nous dire non mais il faut la changer. Parce que
c'est grand classique.
En plus, ils vont se dire, comme ça on leur fait acheter un neuf. Qu'est-ce qu'il y a comme arme contre ça ?
D'abord, il y a quand même des entreprises maintenant, bon, j'en ai cité une tout à l'heure, je ne vais pas insister, mais qui existent et qui vous proposent y compris des forfaits qui vous disent « je viens chez vous, c'est un forfait, mettons 85 € réparation, si c'est plus, on vous propose une machine deuxième vie avec le prix du déplacement et du coup, vous ne perdez pas d'argent. Quoi qu'il arrive, vous avez... Donc il y a des formules maintenant sur Internet où... qui sont assez intéressantes pour pas être... Après, vous savez, ça peut arriver, hein, le témoignage du monsieur est réel, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de réparateurs qui sont quand même des gens passionnés, on l'a dit, hein, c'est des boulots qui se font pas ou quoi. Donc voilà, il faut pas partir du principe. Mais je vous dis, il y a des entreprises comme ça qui sont spécialisées dans les deuxièmes vies, à qui on peut faire confiance.
Marc nous demande ce qu'on pense de l'économie d'usage où le constructeur reste propriétaire de l'objet, le loue à l'utilisateur, en ayant donc plus intérêt à prolonger la durée de vie de l'objet, Laetitia Vasseur.
Oui, ça fait partie des modèles économiques qu'il faut creuser, qui sont intéressants, puisque en effet, si un fabricant reste propriétaire lui-même de son produit, il a plutôt intérêt à ce qu'il soit robuste et qu'il tienne dans le temps. Après, il faut pas que ça non plus ça dégénère finalement à une course à vous dire toujours vous pouvez avoir le produit dernier cri
pour
un moindre coût. Donc, je pense que ça fait partie des solutions et c'est un modèle parmi d'autres qui contribue à cette économie de la durabilité. Nous, on a créé à Hop un club de la durabilité avec des entreprises engagées qui montrent que d'autres façons de faire sont possibles vers le reconditionné, vers la réparation, vers l'économie d'usage que vous avez cité. Et ça participe à un modèle complémentaire, à un écosystème où on est tous complémentaires les uns des autres pour aller vers ces produits durables, réparables.
Voilà, Hop, votre association qui a été agréée comme association nationale de protection de l'environnement par le ministère de la Transition écologique. C'est une vraie reconnaissance pour vous de votre combat ?
Oui, ça montre que l'État a pleine conscience que l'allongement de la durée de vie des produits est un enjeu phare des problèmes climatiques, environnementaux. On est très content de cette reconnaissance et on sera bientôt au Conseil national de l'économie circulaire pour que la durabilité soit au cœur de la stratégie de l'économie circulaire.
Et ça vous laisse toute liberté quand même pour porter plainte et mener des combats, hein, évidemment.
Ah, on ne va pas s'en priver,
balancer les noms.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Laetitia Vasseur pour Hop et David Cormand, eurodéputé. Merci d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré.
Pur, que dit la nature ? Épisode 36.
Voilà, pour finir comme tous les mercredis, 2 minutes 30 de Nature Pure avec le podcast et Vodcast de France Télévisions. Une expérience sonore inédite d'immersion dans un milieu de la planète. Vous allez pouvoir essayer de deviner où nous nous trouvons, ce que vous entendez. Et c'est parti avec cet enregistrement réalisé par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. Que se passe-t-il ? Où étions-nous ?
Aucune idée.
Et avec qui,
c'est
surtout ?
C'est très intriguant.
Et bien, si vous souhaitez avoir la réponse, vous pouvez la trouver sur le site de France Télévisions. Vous allez sur l'onglet « Pur, que dit la nature ?». C'est le podcast et votre cast en partenariat avec La Terre au carré. Le lien, évidemment, sur la page de l'émission.